CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio. CFAQ vous présente le condensé juridique. Un condensé du meilleur des chroniques de vulgarisation juridique présentées par les étudiantes et étudiants de la Faculté de droit, diffusé dans le show du retour. Le Touski. Le condensé juridique, l'émission parfaite pour connaître et comprendre vos droits. CFAQ 88.3, l'essence de l'information.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette diffusion d'informations juridiques dans le cadre d'un projet de collaboration entre le Réseau national d'étudiants et étudiantes pro bono et la radio CFAQ. Le but de ce projet est de faciliter l'accès à l'information juridique dans la communauté grâce à la radiodiffusion de plusieurs capsules. Il est toutefois à noter qu'il ne s'agit pas de conseils juridiques pour des situations spécifiques, mais plutôt d'informations générales qui s'adressent à tout le monde. Alors n'hésitez surtout pas à communiquer avec un avocat ou une avocate en cas de besoin.
Bonjour, mon nom est Sarah et je suis aujourd'hui en compagnie de ma collègue Claudia pour une nouvelle capsule d'informations juridiques sur le droit de la famille. Allô, Claudia.
Bonjour, Sarah.
Pour donner suite aux capsules précédentes concernant la séparation des couples au Québec, nous allons aborder aujourd'hui les étapes qui s'imposent suite à une séparation ou à un divorce. Claudia, on entend souvent parler du fameux patrimoine familial, mais pourrais-tu nous expliquer ce que c'est brièvement?
Oui, en fait, Sarah, le patrimoine familial, ça peut être parfois un mot bien complexe et pour plusieurs. Et en fait, là, il convient ici d'expliquer sommairement ce qu'il en est. Le patrimoine familial, Sarah, ça constitue en fait un ensemble de biens qui doivent être partagés à part égale à la fin du mariage ou de l'union civile. Donc, il n'y a donc pas de patrimoine familial, par exemple, avec les conjoints de fait.
Et pourrais-tu nous dire quel est le but poursuivi du patrimoine familial?
En fait, le patrimoine familial, ça garantit vraiment l'égalité juridique et économique des conjoints en leur garantissant une juste part du patrimoine, justement. Mais en fait, Sarah, là, c'est utile de savoir que les règles sur le patrimoine familial, ça ne s'applique pas si la séparation du couple, elle a eu lieu avant le 15 mai 1989. S'il y a une renonciation au patrimoine familial avec document notarié ou judiciaire avant le 1er janvier 1991, ou bien si un des époux n'habite pas au Québec au moment de la demande en séparation ou divorce. Donc ça, c'est quand même quelques petites exceptions.
Et pourrais-tu nous dire de quoi se compose le patrimoine familial?
Le patrimoine familial, Sarah, ça met en commun les biens des deux époux qui servent pour les besoins de la famille. Il en existe un que les époux aient ou non des enfants et peu importe à qui les biens appartiennent. La seule condition, en fait, pour que les biens soient inclus dans le patrimoine familial, en fait, c'est que l'un des époux ou bien les deux époux soient propriétaires des biens.
Mais comment savons-nous si nos biens sont inclus ou non dans le patrimoine?
En fait, Sarah, il existe une liste des biens inclus dans le patrimoine familial, puis cette liste-là, elle est exhaustive. Donc, si le bien en question ne fait pas partie de la liste, bien le bien, tout simplement, n'en fait pas partie du patrimoine familial. Il a noté que pendant le mariage, le conjoint, il conserve la propriété des biens, mais au moment du partage, il doit remettre la moitié de la valeur du bien. C'est ainsi à ce moment que la valeur des biens du patrimoine, elle est partagée moitié-moitié entre les deux époux, et ce, peu importe la date d'acquisition des biens ou qui les a acquis. Pourvu, en fait, Sarah, là, qu'ils servent à l'usage de la famille, les biens qui font partie de la liste vont être inclus dans le patrimoine familial.
Et Claudia, pourrais-tu nous aider en nous fournissant des exemples de biens qui sont inclus dans le patrimoine familial?
Oui, parmi les biens inclus dans le patrimoine familial, on y retrouve les résidences, par exemple, de la famille. Donc, quand on parle de résidences de la famille, on fait mention donc aux maisons, chalets, condos, roulottes, bateaux et pour qu'on en ait mis quelques-uns. On y retrouve aussi les objets qui garnissent les résidences de la famille, comme par exemple l'immobilier, les électroménagers, les appareils électriques, électroniques et les œuvres d'art. Aussi, on pourrait inclure également les véhicules utilisés par la famille, donc par exemple automobile, véhicule de camping, motorisé, le véhicule utilitaire. Enfin, on y retrouve aussi l'argent qui a été accumulé durant le mariage dans un régime de retraite, par exemple, dans un REER. et aussi les fonds de pension, Sarah.
Tout cela fait beaucoup d'éléments qui sont inclus, mais que reste-t-il ne faisant pas partie du patrimoine familial?
Tout ce qui n'entre pas dans les catégories CIO que je viens de mentionner sont des biens qu'on appelle exclus, puisque tel que mentionné précédemment, la liste des biens inclus est limitative. Cela peut effectivement laisser croire qu'il ne reste plus rien à traiter, mais un bien qui ne fait pas partie du patrimoine familial, il va être régi par le régime matrimonial qui sera vu en fait dans une autre capsule.
Ah, d'accord. Et quelles sont les différentes étapes pour procéder au partage du patrimoine familial?
D'abord, Sarah, si je peux me permettre de renchérir un peu, lorsqu'une rupture a lieu, il faut d'abord procéder au partage du patrimoine familial, puis au partage, pardon, du régime matrimonial qui sera vu ultérieurement. Les règles du patrimoine familial ont préséance sur celles du régime matrimonial, et donc ainsi un bien ne peut pas se retrouver dans le patrimoine familial et aussi dans le régime matrimonial. Si le bien est partagé dans le patrimoine familial, on ne le retraite pas à nouveau dans le régime matrimonial, Sarah.
Donc, j'imagine qu'il faut commencer par déterminer les biens faisant partie du patrimoine familial?
Oui, exactement, Sarah. Mais ce n'est pas toujours aisé à déterminer et il peut être parfois complexe de déterminer si le bien en question fait partie du patrimoine familial ou non. Par exemple, Sarah, une collection d'or dans une pièce réservée ou un ordinateur utilisé par un époux seulement, ce n'est pas évident à traiter. Dans ce cas, un professionnel du droit peut aider à éclaircir la situation. Ensuite, il faut établir la valeur marchande des biens du patrimoine familial. Et la valeur marchande, ça correspond au montant obtenu en cas de vente à la date de l'introduction de la demande de divorce. Une date différente peut être convenue si la demande est faite à la cour et Sarah, la valeur des biens du patrimoine est soit convenue entre les deux époux ou bien soit convenue par des experts auxquels les époux font appel.
Et Claudia, une fois qu'on a obtenu la valeur marchande des biens du patrimoine, quelle est la prochaine étape?
Ensuite, Sarah, il faut soustraire certaines dettes de la valeur nette du patrimoine familial. On parle ici des dettes pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation du bien. Une hypothèque ou un prêt auto sont des exemples de dettes qui se soustraient de la valeur marchande et l'évaluation des dettes se fait au même moment que l'évaluation de la valeur marchande.
Et après, que se passe-t-il?
Après cette étape, vient celle où il faut soustraire d'autres montants si la situation du couple s'y prête. Ces calculs s'appliquent, par exemple, lorsqu'un époux emménage suite au mariage dans la maison appartenant déjà à l'autre époux ou si on utilise l'argent d'un héritage reçu pour acheter une maison familiale ou bien encore, Sarah, si un bien du patrimoine familial appartenant à un seul des deux époux avant le mariage est servi pour acheter ou encore pour améliorer un autre bien du patrimoine familial.
J'imagine qu'après tout cela, on obtient la valeur nette du patrimoine familial?
Oui, c'est exact, Sarah. La dernière étape, c'est vraiment d'établir la valeur partageable des biens. Il faut donc partager moitié-moitié la valeur nette du patrimoine familial. Et rappelons que la valeur nette, elle est obtenue en soustrayant les dettes de la valeur marchande. Ainsi, c'est la valeur des biens qui est partagée et non la propriété des biens, Sarah. Et il faut donc compenser l'autre époux en argent ou en bien, et si le propriétaire du bien qui décide s'il veut compenser l'autre en argent ou en bien.
Enfin, Claudia, pourrais-tu nous dire s'il existe certaines exceptions?
D'abord, le tribunal peut exiger une somme ou des biens en garantie pour le paiement de l'apport du patrimoine familial. Puis ensuite, le paiement peut se faire par versement, mais sur une période échelonnée maximale de 10 ans. Enfin, on ne peut pas refuser à l'avance le patrimoine familial, mais on peut y renoncer. La renonciation se fait devant un notaire ou devant un juge, puis cette renonciation-là, elle va être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers dans un délai de 1 an. Ainsi, en cas de décès, il faut régler le partage du patrimoine familial avant de régler le reste de la succession. Le patrimoine familial a donc vraiment priorité sur les dispositions du testament.
Et est-il possible de prendre des précautions pour faciliter le partage?
C'est certain qu'il peut être utile de faire un contrat de mariage qui précise la valeur nette et la valeur brute des biens que les deux conjoints possèdent au moment du mariage. Aussi, il peut être utile de verser les REER à compter du mariage dans un nouveau REER. Alors, c'est facile de déterminer la valeur accumulée.
Merci beaucoup, Claudia, pour toutes ces informations qui mettent fin à notre capsule d'informations sur le droit de la famille au Québec, plus particulièrement sur le partage du patrimoine familial.
Ça m'a fait plaisir.
Nous remercions une fois de plus la radio CEFAC dans ce projet de collaboration avec le Réseau national d'étudiants et étudiantes pro bono et nous invitons nos auditeurs à rester à l'affût pour la prochaine capsule qui complétera le patrimoine familial.
Parmi la masse, le cœur en dessous la carapace. J'avance à vitesse une tortue. Lentement mais sûrement. 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 À chaque jour une nouvelle. Si elle voit qu'elle va aux poubelles. Yeah, j'ai acquis tout ce que je voulais. Y'a des olives dans mon poulet. J'décide de tout, appelle-moi le commissaire. On veut pas que demain soit comme hier. Tu parles pas français, ouais, my money, yeah. J'suis en train de sauver la langue de Molière. Complètement, yeah, j'accepte seulement les compliments. Honnêtement, des grignotines, plusieurs condiments. Jeune vétéran, j'suis trop big, mon nom est corpulent. Comme un grand, sur le plateau, j'ai mon monument, wow. Rien de moi, puis je veux bientôt. J'suis le king de Sacramento. Sauvignon blanc à l'apéro. Oh Dieu, c'est pour ça que j'ai devenu coquille. Oh Dieu, tu peux juste m'appeler Fouki. Oh Dieu, te dire que tout est promis. Vaut mieux travailler comme une fourmi. L'effort il est fourni. Toute ma famille est nourrie. On pleure de joie, on sourit. On s'aime jamais insoumis. J'me camoufle parmi la masse. Le cœur tend sous la carapace. J'avance à vitesse d'une tortue. Lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement.
Me voilà, me voilà, oui. Yes. J'arrive à la ligne d'arrivée. Me voilà, oui. Yes. Toujours le premier arrivé. J'étais comme moi.
La vie, hein? Pauvre Labine. Passe son charcoal. Boum! Bonsoir, il est parti.
Ah, mon livre à moi, un barbecue, t'allumes ça des haules, pas dans ta cave.
Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine.
J'te laisse pas sur ta fin quand j'ai pas.
Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine.
On garde des boulettes dans la salle.
Grignotine. Grignotine. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine.
Même les yeux fermés, j'rêve pas ma chasse.
Posé avec Louis et José Hood. Quand il est temps de manger, on joue du coude. Y'a du Gatorade bleu dans ma coupe. Y'a du Gatorade bleu dans ma coupe. J'voulais fit avec Bobby Sonnette. Être rapide comme Dominique Hachette. Même pas mal au dos, c'est une cross-check. Parce que j'ai mangé un bon repas, j'suis prêt. J'suis le goleux, le centre ou même le coach. Si j't'ai dit joue, c'est pour une bonne cause. Tu devrais regarder apprendre les autres. Fais-moi confiance, on fait qu'augmenter le niveau. L'arbitre est sur le cigarette de clown. Regarde dans la game, t'as l'air d'un ticoun. J'ai la vaillance de Steve Bégin. J'te plaque dans le monde, t'as la tête qui tombe. Quand j'suis sa gâche, ton chevalier. Plus fait comme Vincent le cavalier. Et j'ai la chip de Georges Larac. Plusieurs bagues, la coupe sonnée. Mon cœur c'est de la pierre comme Maxime. Toujours plus vite quand je patine. Watch out les moves. Quand j'me répète, je tartine. Petite bouchée divine. Petite bouchée coquine. Grignotine, grignotine. Après la game, nicotine.
Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine.
J'te laisse
Cette année, Fouki, je le mets dans mon pool. D'ailleurs, ça va très bien pour Fouki. Fouki désir. Plateau de fruits et ou grignotine. Yo, son mi grignotine.
Bonjour à tous, mon nom est Sarah et je suis aujourd'hui en compagnie de ma collègue Claudia pour une nouvelle capsule d'information juridique sur le droit de la famille. Allô Claudia!
Bonjour Sarah!
Claudia, la présente capsule a permis de cerner l'importance et la signification de ce qu'est le patrimoine familial. Aujourd'hui, nous allons aborder son côté socio-historique. Qu'est-ce qui a fait que le patrimoine familial a été intégré en droit québécois?
Alors, Sarah, c'est vraiment en 1989 que ce principe est apparu au Québec. La province a adopté à cette époque la loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives. Et puis, c'est vraiment cette loi, Sarah, qui a permis d'amener ce nouveau principe qui est le patrimoine familial. C'est certain que ça a amené une réflexion aux couples qui étaient déjà mariés parce que ceux-ci devaient décider si justement le concept de patrimoine familial allait s'appliquer à leur cas ou non. En fait, s'ils décidaient de s'exclure de cette nouvelle règle, il va donc y avoir un impact sur la séparation si jamais ça arrive quand on arrive au partage des biens. Pour ce qui est de tous les couples qui se sont mariés après la date butoir, soit celle du 1er juillet 1989, ils n'ont pas eu le choix de suivre les réglementations du patrimoine familial.
C'est vraiment un grand changement, mais quelles sont les circonstances qui ont poussé à instaurer le patrimoine familial au Québec?
Avant que ce principe ne fasse partie intégrante de la société, Sarah, il y avait vraiment plusieurs inégalités entre les couples mariés au Québec.
Et Claudia, est-ce que c'est par une loi qu'on a instauré le patrimoine familial?
Oui, en fait, c'est le concept de patrimoine familial, ça a été introduit par la loi 146. Et ce chiffre est une référence au projet de loi avant qu'il ne soit adopté. Plus précisément, Sarah, le titre de la loi est le suivant, donc la loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux. Puis, comme mentionné, elle a été adoptée le 1er juillet 1989, mais toutefois, elle a été modifiée par le législateur le 22 juin 1990 parce que, justement, il y avait certains problèmes d'interprétation.
Et Claudia, qu'est-ce que cette loi visait à modifier?
En fait, la loi 146, Sarah, elle avait deux volets principaux. D'un côté, c'était d'introduire une nouvelle section ayant pour titre du patrimoine familial dans le Code civil du Québec. Puis ça, ça a été intégré dans le chapitre des effets du mariage. Et ensuite, sur un deuxième volet, d'adopter des mesures transitoires qui vont avoir comme objectif d'avoir un effet rétroactif à la loi ainsi que quelques atténuations que l'on retrouve à l'article 42 de la loi.
Et Claudia, pourrais-tu nous expliquer quel a été l'impact sur les couples après tout cet ajout?
En gros, Sarah, les changements principaux que l'on constate dans les nouvelles dispositions dans le Code civil du Québec, c'est le fait qu'il est désormais obligatoire d'inscrire les renonciations au partage qui ont été faites en forme notariée, donc par un notaire, ainsi que celles qui sont faites dans une instance au registre des droits personnels et réels mobiliers.
Mais quels étaient au juste les principaux objectifs de la loi?
En fait, pour garder ça largement, là, les principaux objectifs, c'était premièrement de consacrer le mariage comme une véritable institution de partenariat entre les époux. Ensuite, également, de concrétiser sur le plan économique les principes d'égalité juridique des époux introduits dans le Code civil lors de la réforme de 1981. Et finalement, de corriger, mais surtout de corriger l'injustice économique vécue par certaines femmes à l'occasion de leur séparation ou de leur divorce. Également, Sarah, le législateur avait comme objectif, à l'aide de cette loi, de justement rétablir à court terme chacun des conjoints vers un équilibre économique plus favorable s'il y avait séparation, puis à long terme, d'assurer l'atteinte d'un certain montant de retraite aux époux respectivement. Et c'était fréquent, Sarah, de constater que l'un des époux, soit la femme le plus souvent, après une rupture, se trouvait sans aucun capital et sans aucune possibilité d'accumuler des droits de retraite.
Et Claudia, est-ce que c'était la première fois qu'on tentait de favoriser les qualités économiques des époux?
En fait, Sarah, avant l'adoption de la loi 146, le législateur, il n'en était pas à sa première initiative pour favoriser l'égalité économique entre les époux. Effectivement, il a introduit le recours en prestations compensatoires au début des années 1980. Ce recours, on le retrouve à l'article 427 du Code civil du Québec. Puis en fait, c'est une mesure, Sarah, qui vise à indemniser un conjoint qui a contribué à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint par son apport, pardon, soit en biens ou soit en services. Ce recours n'est applicable qu'à l'égard des biens qui ont été accumulés en dehors du patrimoine familial. Donc, en somme, après 10 ans d'essai, on a constaté que la prestation compensatoire visait uniquement qu'une partie des cas d'inégalité. Et en fait, ça entraînait un processus non seulement long, mais également coûteux dont l'issue n'était pas certaine.
Donc, Claudia, au final, peut-on dire que la loi 146 a été une réussite?
Enfin, la loi 146, ça a été grandement pratique malgré ses difficultés d'interprétation, puisqu'elle a eu comme effet de simplifier le travail des avocats qui devaient régler les conséquences financières d'une rupture. Et même si l'évaluation du patrimoine familial reste tout de même un très grand défi, particulièrement quant au droit à la retraite, les époux ont désormais la certitude juridique qu'ils ont chacun droit à la moitié du patrimoine familial.
Merci Claudia. Puis maintenant sur un contexte plus actuel, est-ce qu'il est possible, dans certains cas, que même si le patrimoine familial s'applique, qu'un époux n'ait pas à partager sa partie?
Oui, en fait, Sarah, un cas québécois nous a montré que ça peut arriver parfois. Selon un article écrit par la presse en 2019, le juge Vaillancourt de la Cour supérieure de Longueuil aurait décidé de ne pas ordonner le partage égal. En gros, le mari trompait sa femme et aurait utilisé une bonne partie de son argent afin d'investir dans ses aventures avec ses différentes maîtresses, alors que l'épouse mettait de l'argent pour planifier sa retraite. Le juge Vaillancourt a d'ailleurs mentionné qu'il ne s'agissait pas d'un jugement moral, mais qu'il existe bien une dérogation prévue au Code civil du Québec pour ce genre de situation, justement comme il le mentionne, quand il en résulterait une injustice compte tenu notamment de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens pour l'un des époux ou encore de la mauvaise foi de l'un d'eux. Et dans ce cas-ci, la dame, elle a pu garder en fait la totalité de ses REER, mais pour ce qui est des autres biens comme la maison, en fait, ça a été divisé comme prévu à part égale. Pour regarder un peu les chiffres, là, même si monsieur menait un train de vie avec des emplois à haut revenu, il avait accumulé un REER de 27 000 $ durant une quinzaine d'années, tandis que madame, elle avait accumulé environ 237 000. Donc, quand même une grosse différence, Sarah.
Merci beaucoup, Claudia, pour toutes ces informations qui mettent fin à notre capsule d'informations sur le droit de la famille au Québec, plus particulièrement sur le partage du patrimoine familial.
Ça me fait plaisir.
Nous remercions une fois de plus la radio CFAQ dans ce projet de collaboration avec le Réseau national étudiant et étudiante Propono et nous invitons nos auditeurs à rester à la vue pour la prochaine capsule qui traitera du régime matrimonial de la communauté de biens.
Bonjour à tous, mon nom est Annelise Descaillettes et je suis en compagnie aujourd'hui de mon collègue Vincent Bellil pour une toute nouvelle capsule d'informations juridiques sur le droit de la famille au Québec. Bonjour Vincent.
Bonjour Annelise.
Le sujet d'aujourd'hui porte sur l'un des trois principaux régimes matrimoniaux qui existent au Québec et qui viennent ajouter une certaine protection supplémentaire aux époux après avoir discuté du patrimoine familial. Pour les auditeurs intéressés, nous avons abordé la thématique du patrimoine familial au cours des capsules antérieures. Nous allons en effet aborder le thème de la communauté de biens dans un premier temps et, chers auditeurs, restez à l'affût des prochaines capsules qui viendront illustrer les deux autres régimes matrimoniaux, soit la société d'acquêt et la séparation de biens. Vincent, dans un premier temps, peux-tu nous expliquer ce qu'est un régime matrimonial?
Oui, bien sûr, Annelise. Je crois que pour illustrer le tout le plus simplement possible, je vais me référer à la définition que l'on retrouve là, dans les multiples dictionnaires de droit. Donc, il s'agit de l'ensemble de règles qui gouvernent les intérêts patrimoniaux des époux dans leur rapport entre eux et à l'égard des tiers. Donc, ça va s'appliquer tout au long de l'union, soit de la célébration du mariage jusqu'à la dissolution par le divorce.
Merci Vincent. Maintenant que l'on comprend mieux ce que sont les régimes matrimoniaux, peux-tu nous expliquer en quoi consiste la communauté de biens?
Oui, certainement, Annelise. Parmi les différents régimes matrimoniaux qui sont applicables au Québec, on doit d'abord mentionner la communauté de biens, qui se veut également le régime le plus ancien. En effet, c'était un concept qui remonte à son introduction par la coutume de Paris il y a plus de 380 ans. Donc, on parle d'une toute autre époque là, ici. Par le fait même, là, il s'agit d'un régime matrimonial qui risque de toucher beaucoup moins de gens à l'heure actuelle pour différentes raisons que nous allons aborder dans cette capsule. Maintenant, pour répondre plus précisément à ta question, la communauté de biens correspond au régime matrimonial qui était le plus prépondérant au Québec avant le 1er juillet 1970, étant donné qu'il s'agissait du régime par défaut. Donc, lorsque les époux n'avaient pas choisi un régime matrimonial par contrat de mariage, eh bien, c'était la communauté de biens qui s'appliquait.
C'est intéressant tout ça. Suite à ces informations que tu viens de nous dire, on comprend donc que la communauté de biens est tout de même d'actualité. Cela m'amène alors à te poser la question suivante, Vincent. Aujourd'hui, en fait, pour être assujetti à ce régime, est-ce que c'est de la même manière qu'auparavant?
Non, en fait, c'est-à-dire qu'il est toujours possible pour les époux de choisir ce régime s'il est indiqué là, dans le contrat de mariage. Mais ça reste relativement rare là, aujourd'hui. Nous allons voir un peu plus tard que le régime par défaut au Québec d'aujourd'hui, c'est maintenant la société d'acquêt.
D'accord, Vincent. Donc, si j'ai bien compris, seulement quelques couples sont régis par ce régime par défaut. Mais il est toujours possible de le choisir, en fait?
Oui, exactement. Donc, maintenant, si on rentre un peu plus là, dans les détails qui nous intéressent par rapport à ce régime, il faut savoir que lorsque les époux sont régis par la communauté de biens, il existe en fait trois catégories de biens. Donc, nous allons retrouver dans un premier temps les biens propres du mari ou de la femme, les biens communs, ainsi que les biens réservés de la femme. La première catégorie, les biens propres, ça comprend des immeubles, des biens reçus en cadeau ou légués, comme biens propres, certaines indemnités reçues en dédommagement ou des torts personnels ou blessures physiques, de même que certaines dettes. Ensuite, les biens communs vont correspondre aux biens possédés au jour du mariage, ainsi que ceux acquis pendant le mariage, si ceux-ci ne sont pas des propres. Ces biens comprennent également là, les dettes de chacun. Finalement, pour la troisième catégorie de biens, donc les biens réservés à la femme, c'est ceux qui vont résulter ou qui ont été acquis là, à l'aide du travail personnel de la femme.
Parfait. Puis rapidement, Vincent, est-ce que ce genre de catégorisation des biens est aussi présente chez les autres types de régimes, matrimoniaux?
Merci, Annelise, de soulever la question. Cette façon de catégoriser est bel et bien une caractéristique qui est propre là, à la communauté de biens. Une grande distinction par rapport aux autres régimes matrimoniaux réside aussi dans la distinction entre les droits et les pouvoirs de l'homme et de la femme dans la communauté de biens. Tout au long de la diffusion de nos capsules d'informations juridiques sur le droit de la famille au Québec, nous avons soulevé les changements sociaux qui caractérisent le droit d'une époque, et c'est également dans cette optique que s'inscrit la communauté de biens. En effet, ce régime prévoit l'administration des biens communs par un des époux qui, traditionnellement, était de la responsabilité de l'homme. Donc, par exemple, dans la littérature, on va souvent employer les termes de « biens réservés de la femme ». Donc, traditionnellement, c'est le mari qui administre les biens communs des deux époux et la femme peut administrer ses biens réservés. Malgré ses droits différents, le mari doit tout de même obtenir le consentement de la femme s'il veut donner un bien commun, vendre ou hypothéquer un immeuble commun, un meuble utilisé par la famille ou une entreprise.
Ah, je vois. Donc, du côté de la femme, est-ce pareil?
En fait, pour l'épouse, elle doit également obtenir le consentement de son mari ou même du tribunal pour ce qui concerne la vente, le don ou l'hypothèque d'un immeuble réservé, un meuble de la famille ou une entreprise.
Wow, on voit vraiment en fait une mentalité différente, si l'on peut le dire ainsi. On voit comment que le droit de la famille est en constante évolution. Aussi, Vincent, nous en avons brièvement parlé plus tôt, mais je crois qu'il est important de prendre un petit moment pour souligner la pertinence du patrimoine familial qui a été l'objet d'une capsule antérieure.
En effet, Annelise, plus tôt, nous avons abordé le concept de patrimoine familial. Il pourrait être important là, de rappeler que, en fait, son application, peu importe le type de régime matrimonial. Ainsi, il va de soi qu'en cas de divorce, les époux devront d'abord régler le partage des biens qui sont concernés là, par le patrimoine familial. Donc, on se rappelle la maison, par exemple, ou le mobilier, avant de se référer aux règles de la communauté de biens.
Sur cette même lancée, qu'advient-il en cas de divorce des époux qui sont régis par la communauté de biens?
Il faut savoir qu'il existe ici encore une autre fois là, une distinction importante et quand même unique au régime de la communauté de biens. C'est en fait le choix de la femme au moment du divorce. Donc, elle a la possibilité d'accepter ou de refuser la communauté.
D'accord. Donc, aurais-tu un exemple à nous faire part?
Oui, bien, en fait, à titre d'illustration, un refus de la femme aurait pour conséquence d'attribuer les biens communs au mari et les biens réservés à la femme. Si la communauté est acceptée par la femme, les époux deviendront copropriétaires à part égale des biens communs et des biens réservés.
Enfin, quant au mode de partage, y a-t-il quelque chose de particulier?
En effet, il est à noter que dans ce régime matrimonial, le partage se fait en nature et non en valeur, là, contrairement aux autres régimes que nous allons voir ensemble plus tard.
Merci beaucoup, Vincent, pour toutes ces informations qui clôt notre capsule d'informations sur le droit de la famille au Québec en ce qui concerne la communauté de biens.
Le plaisir est pour moi, Annelise.
Nous remercions une fois de plus la radio CFAQ dans ce projet de collaboration avec le Réseau national d'étudiants et d'étudiantes pro bono. Et nous vous invitons, nos auditeurs, à rester à l'affût pour la prochaine capsule qui concernera un autre type de régime matrimonial, soit la société d'acquêt.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette diffusion d'informations juridiques dans le cadre d'un projet de collaboration entre le Réseau national d'étudiants et étudiantes pro bono et la radio CFAQ. Le but de ce projet est de faciliter l'accès à l'information juridique dans la communauté grâce à la radiodiffusion de plusieurs capsules. Il est toutefois à noter qu'il ne s'agit pas de conseils juridiques pour des situations spécifiques, mais plutôt d'informations générales qui s'adressent à tout le monde. Alors, n'hésitez surtout pas à communiquer avec un avocat ou une avocate en cas de besoin.
Bonjour à tous, mon nom est Claudia et je suis aujourd'hui en compagnie de ma collègue Sarah pour une nouvelle capsule d'information juridique sur le droit de la famille. Bonjour Sarah.
Allô Claudia!
Après avoir discuté des régimes de la communauté des biens et de la séparation des biens, nous voilà maintenant rendus à parler du troisième régime matrimonial, celui qui s'applique à la majorité des couples québécois mariés, soit la société d'acquêt. Sarah, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce qu'est la société d'acquêt?
Absolument. Donc, à titre de rappel, on entend par régime matrimonial un système qui est choisi par les époux qui va régler la gestion des biens et des obligations des époux pendant, mais aussi après le mariage. Il est important de savoir que le régime matrimonial est d'ordre public. On peut donc pas y déroger. Et si aucun régime n'est choisi par les époux dans un contrat de mariage notarié, ça va être la société d'acquêt qui sera le régime matrimonial. À vrai dire, c'est le régime par défaut depuis 1970 et ce régime a remplacé le régime par défaut de l'époque qui était la communauté de biens. D'ailleurs, il est possible de modifier le régime matrimonial durant l'union, c'est donc vraiment pas quelque chose qui est coulé dans le béton. Au sein de ce régime, à la fin du mariage, on procède au partage des biens qui ont été accumulés pendant le mariage, mais on va exclure certains biens qui demeurent propres aux époux. Pour y arriver, les biens sont séparés en deux catégories. On parle donc des biens propres et des biens acquis.
Puis par rapport à ces biens-là, Sarah, qu'est-ce qu'on retrouve parmi les biens propres?
Claudia, ce qu'on retrouve parmi les biens propres, d'abord, il est important de comprendre que ces biens-là ne sont pas partagés à la fin du régime. C'est pourquoi on dit que la valeur de ces biens va demeurer propre à chacun des époux. Dans cette section, on considère, entre autres, comme propres les biens qui ont été acquis avant le mariage, les biens qui ont été reçus d'un héritage ou d'une donation, le montant d'une pension alimentaire ou d'une pension invalidité, les vêtements, les papiers personnels, les alliances, les prix reçus, les diplômes ou bien les instruments de travail nécessaires à une profession.
Puis si on regarde plus du côté des biens acquis, Sarah, de quoi sont composés les biens acquis?
À l'opposé des biens propres, Claudia, on y retrouve les biens acquis. Ce sont donc les biens qui ont été accumulés pendant le mariage et qui ne sont pas propres à chacun. Donc, ces biens-là, on les partage à la fin du régime. Il est important de savoir qu'il existe une présomption d'être un bien acquis. Donc, les biens qui ne sont pas déclarés propres par la loi sont forcément acquis. Et dans cette catégorie, on retrouve entre autres le salaire et les revenus de placement reçus pendant le mariage, les revenus de l'entreprise propres à l'un des époux qui n'a pas été réinvesti dans l'entreprise, les biens qui sont acquis majoritairement avec des acquis et les fruits et revenus des biens que chacun possédait avant le mariage.
Et Sarah, est-ce que tu aurais un exemple concret qui permettrait un peu de cerner la différence entre un bien propre et un bien acquis?
Oui, bien sûr. J'ai trouvé un article d'Éducaloi qui illustre bien la différence entre un bien propre et un bien acquis. Il s'agit de l'exemple suivant. Donc, à la veille de son mariage, Caroline possède un placement à la banque de 5 000 $. 20 ans après son mariage, son placement lui a rapporté 1 000 $ d'intérêt. On dit donc que les intérêts réalisés pendant le mariage, font partie des acquis que Caroline devra partager à son divorce, mais le montant en capital de son placement, donc le 5 000 $, est d'un bien propre qui lui appartenait avant son mariage.
Et Sarah, quels sont les droits et les obligations des époux au sein de ce régime matrimonial?
Eh bien, Claudia, lorsque les époux sont régis sous le régime de la société d'acquis, chaque époux peut administrer, utiliser ou se départir librement de ses revenus et de tous ses biens. On dit aussi que chacun est responsable de ses dettes, sauf si la dette était pour répondre aux besoins courants de la famille. Mais une exception s'applique, c'est dans le cas où il faut le consentement de l'autre époux, dans le cas d'une donation d'un bien acquis d'une valeur importante. Il s'agit là d'une exception à la règle.
Puis, Sarah, comment on procède au partage du régime de la société d'acquis?
Le partage des biens à la fin du régime matrimonial peut se produire à différents moments. Il peut donc se produire lors d'un divorce, d'un décès ou d'un changement de régime matrimonial. Le partage du régime matrimonial a lieu après le partage du patrimoine familial qui, lui, a fait l'objet d'une capsule antérieure. Il faut alors bien établir les biens qui sont propres et les biens qui sont acquis, car les biens propres demeurent à l'époux propriétaire et la valeur des biens acquis est partagée moitié-moitié. Ensuite, il faut calculer la valeur des biens acquis de chaque époux. Il faut aussi tenir compte des dettes qui ont été accumulées, si cela a été le cas durant l'union. Il faut se l'avouer, l'étape du partage nécessite des calculs bien complexes. C'est pourquoi l'utilité de recourir à un professionnel du droit pour effectuer le partage peut être nécessaire.
En effet, Sarah, ça a l'air assez complexe, tous ces calculs, mais je me demandais, est-ce qu'il est possible de refuser le partage?
En effet, chaque époux peut accepter ou renoncer au partage ou convenir d'un partage qui leur convient. Et la démarche d'acceptation ou de refus du partage des acquis n'a pas besoin d'être réciproque. Donc, un conjoint peut renoncer à un partage, mais l'autre peut l'accepter. Ce sont donc deux opérations bien distinctes. La renonciation, elle se fait par un acte notarié en minutes ou par une déclaration judiciaire. Une petite particularité est qu'en cas de décès, si le survivant refuse le partage, eh bien les héritiers du défunt ne peuvent pas accepter le partage des acquis à la place du défunt.
Et quand on regarde le partage, justement, est-ce qu'il est vraiment toujours égal?
Eh bien, Claudia, il arrive parfois certaines situations où les conjoints n'ont pas une part égale de la valeur du partage du régime matrimonial. On procède alors à ce qu'on appelle le partage inégal. Ce partage inégal se produit en cas de brièveté du mariage, de mauvaise foi ou de dilapidation. À vrai dire, il est possible qu'une personne soit privée des acquis auxquels elle avait droit si elle avait des mauvaises intentions dans l'administration des acquis ou si elle a effectué des dépenses excessives pouvant nuire au partage équitable. Pour ce faire, l'époux qui demande au tribunal le partage inégal doit absolument prouver cette injustice ainsi que le comportement reproché à son ex-époux.
Merci beaucoup, Sarah, pour toutes ces informations qui mettent fin à notre capsule d'informations sur le droit de la famille au Québec et plus particulièrement sur le partage du patrimoine familial.
Ça me fait plaisir!
Nous remercions une fois de plus la radio CFAQ dans ce projet de collaboration avec le Réseau national étudiant Pro Bono et nous invitons nos auditeurs à rester à l'affût pour une prochaine capsule qui traitera d'un nouveau sujet. Thank you.
importe où tu te caches, je te retrouverai. Parti de rien, heure en chemin, larme à l'arrivée. Parti plaisir, boire tout le train, il veut dériver. Puis faire l'amour, rire après coup, se dire qu'après tout ce qu'elle m'avait fait, ça je ne risquais pas de lui courir après tout. Derrière la porte où elle se cache, déjà s'en trouverait. Derrière la farce, les faibles cachent leurs absurdités. Elle qui disait bonsoir mon amour, koala en chéri, faisons un tour. Texte désormais. Coucou, 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 comment vas-tu? Comme si elle m'avait jamais vu nu, comme si j'étais un inconnu. Elle écrit ce genre de truc comme si elle m'avait jamais vu nu. Encore un été j'attends. Le soir venu, dire oui à tout. Lendemain, se sentir bien moins impliqué. J'suis sans nouvelles, j'suis sous un arbre, je réponds ah ouais. L'âme sœur s'est cassée, c'est l'ipse éclipsée, qu'ai-je imaginé? Celle qui disait bonsoir mon amour, koala en chéri, faisons un tour. Texte désormais. Coucou, 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 comment vas-tu? Pourquoi elle demande puisque je peux plus lâcher ma dose dans son. Coucou, 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 comment vas-tu? Comme si j'étais un inconnu, comme si elle m'avait jamais vu nu. Je jetterai sa brosse à dents.
Mon nom est Annelise Descaillettes et je suis aujourd'hui en compagnie de mon collègue Vincent Bellil pour une toute nouvelle capsule d'information juridique sur le droit de la famille au Québec. Bonjour Vincent.
Bonjour Annelise.
Le sujet d'aujourd'hui porte sur un autre régime matrimonial qui existe au Québec et qui, rappelons-le, vient ajouter une certaine protection supplémentaire aux époux après avoir discuté du patrimoine familial. Pour les auditeurs intéressés, nous avons abordé la thématique du patrimoine familial au cours des capsules antérieures. Nous allons en effet aborder le thème de la séparation de biens dans un premier temps et, chers auditeurs, restez à l'affût des prochaines capsules qui viendront illustrer les deux autres régimes matrimoniaux. Vincent, nous avons, dans la capsule d'information qui traitait de la communauté de biens, établi ensemble qu'un régime matrimonial était un ensemble de règles qui gouvernent les intérêts patrimoniaux des époux dans leur rapport entre eux et à l'égard des tiers. Ainsi, pourrais-tu nous dresser un bref aperçu de la séparation de biens?
Certainement, Annelise, donc la séparation de biens, c'est un régime matrimonial qui doit être choisi par les époux, puisque le régime par défaut est celui de la société d'acquêt, conformément aux articles du Code civil. Ce régime doit être indiqué par contrat de mariage notarié et va nécessiter la dissolution d'un régime matrimonial antérieur si les époux étaient précédemment régis par la communauté de biens ou la société d'acquêt. Donc, il s'agit d'un régime qui s'inspire un peu du courant individualiste là, de la société actuelle, si on peut dire ainsi. En effet, la séparation de biens se veut être un régime beaucoup plus simple que ses homologues pour différentes raisons qui vont être détaillées là, au cours de cette capsule, dont celle de la liberté de conserver ses propres biens. Donc, en effet, là, les époux qui ont indiqué leur intention d'être soumis au régime de la séparation de biens vont avoir la possibilité de conserver leurs biens propres qui étaient possédés avant le mariage et qui ont été acquis pendant le mariage, lorsque va venir le temps de procéder au divorce. Également, sur cette note, pour les auditeurs qui sont intéressés, là, nous avons amplement parlé du divorce là, dans des capsules antérieures.
Parlant de divorce, Vincent, je crois que le patrimoine familial est toujours de mise dans ce contexte.
Oui, en effet, là, Annelise, il faut nuancer un peu l'information, puisque malgré le choix des époux d'être liés par ce régime matrimonial, qu'est la séparation de biens, on doit toujours se référer au partage des biens affectés par le patrimoine familial dans un premier temps.
Peux-tu nous en dire plus sur cette référence en question, Vincent?
Oui, certainement. Tel que mentionné plus tôt là, dans la capsule qui a trait au patrimoine familial, les époux ne peuvent pas stipuler à l'avance qu'ils vont renoncer à leurs droits dans le patrimoine familial là, conformément là, aux articles du Code civil.
Ah bon, donc la renonciation n'est jamais une option, si je comprends bien?
En fait, le même article prévoit néanmoins, on parle ici de l'article 423, parle de la possibilité d'y renoncer au moment du partage si cette renonciation respecte les exigences de forme, par exemple l'inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers, donc le RDPRM. Parmi les biens affectés par le patrimoine familial, il est toujours pertinent de rappeler ici là, par exemple le régime de retraite des époux qui peut être l'occasion différent là, au moment du divorce en séparation de biens. Considérant que chacun des époux souhaite repartir avec ses biens, justement.
Alors, mis à part le partage du patrimoine familial, chacun pourra repartir avec ses biens?
Exactement. Donc, les époux qui sont régis par la séparation de biens ne seront pas tenus au partage de leurs biens en cas de divorce. Pour les biens qui sont détenus par les deux époux, ils vont être considérés comme des copropriétaires. C'est quand même similaire un petit peu là, sur ce point aux époux en communauté de biens, qui était également le sujet d'une capsule antérieure pour les intéressés. Donc, après le partage du patrimoine familial, chacun pourra repartir avec ses biens, peu importe la valeur de ceux-ci. Donc, c'est vraiment une importante distinction à tenir compte pour les époux qui hésite justement entre les régimes par défaut, qui est la séparation, la société d'acquêt, pardon, et le régime actuel qu'on parle, donc la séparation de biens.
En effet, Vincent, c'est intéressant tout ça. Il s'agit d'une information très pertinente à savoir pour ceux qui tentent ou tenteront de faire un choix quant à un régime matrimonial. Sinon, dans la même lignée, l'accord de l'autre époux est-il nécessaire lorsque l'un souhaite vendre son bien, par exemple?
En fait, puisque les époux ont la liberté de conserver leurs biens au moment du divorce, ils vont également pouvoir utiliser et administrer leurs biens comme bon leur semble pendant le mariage. Donc, l'époux n'aura pas besoin d'obtenir le consentement de l'autre époux en ce qui concerne l'administration de ses biens et peut, par le fait même, là, se départir librement de ses biens s'il veut.
Merci Vincent d'avoir pris le temps de clarifier certaines notions en lien avec la séparation de biens. Maintenant, je crois qu'il serait pertinent de prendre le temps de poser une question qui touche un grand nombre de gens au Québec et qui a par ailleurs été le sujet de discussion de plusieurs capsules passées. Qu'en est-il des conjoints de fait?
C'est un excellent commentaire, Annelise, puisqu'en effet, on l'a mentionné déjà à plusieurs reprises là, depuis le début des diffusions sur les capsules d'information juridique sur le droit familial au Québec. Les conjoints de fait ne disposent que de très peu de protection. Donc, la séparation des conjoints de fait démontre encore une fois l'importante distinction entre ce régime de fait et les régimes légaux. Donc, pour également les auditeurs qui sont intéressés avec ces distinctions, vous pouvez vous référer à la capsule qui a trait justement aux conjoints de fait pour plus de détails.
Ah oui, telle que la décision de la Cour suprême, Éric Conclola, que vous avez mentionné justement dans cette capsule, qui est une excellente référence pour démontrer cette distinction en question et qui nous fait un rappel quant au respect de la volonté du législateur concernant le fait de laisser les conjoints de fait vivre en union libre.
En effet, considérant la liberté des conjoints de fait de contracter librement entre eux et qui, justement, selon certains, représente l'une des caractéristiques distinctives de ce choix d'union, il n'y a pas de protection légale au même sens que pour les époux et les conjoints unis civilement. Par conséquent, il n'y existe pas de partage de biens en vertu d'un régime matrimonial et encore moins un régime de protection automatique comme celui du patrimoine familial. Donc, on se souviendra de l'impossibilité de stipuler à l'effet contraire à l'avance de ce partage de biens qui, justement, évoquait une fois de plus le caractère de protection pour les couples mariés ou unis civilement dans le cas du partage du patrimoine familial. Donc, dans notre cas ici, il n'y en a pas pour les conjoints de fait.
Il n'y a donc aucune protection pour les conjoints de fait?
En fait, les conjoints devront s'en tenir à ce qu'ils ont stipulé eux-mêmes dans un contrat de vie commune lorsqu'ils en avaient prévu un, justement. Afin d'illustrer peut-être un peu l'impact considérable que ça peut avoir, là, cette situation, pensons à un couple où l'un des conjoints possède l'immeuble de la résidence familiale. Donc, en cas de séparation des conjoints de fait, l'autre époux ne va pas avoir droit au partage de ce bien qui, normalement, en vertu du patrimoine familial, aurait droit.
Merci beaucoup, Vincent, pour toutes ces informations qui clôt notre capsule d'information sur le droit de la famille au Québec en ce qui concerne la séparation de biens et le cas particulier des conjoints de fait.
C'est un plaisir pour moi, Annelise.
Nous remercions une fois de plus la radio CFAQ dans ce projet de collaboration avec le réseau national d'étudiants et d'étudiantes pro bono et nous invitons nos auditeurs à rester à l'affût pour les prochaines capsules d'information juridique concernant le droit de la famille au Québec.